Un Italien qui gagne en Formule 1, septuple champion du monde en résurrection, une écurie mythique qui assure le spectacle et un champion, le meilleur pilote de la grille qui se gave de Tranxène. Bienvenue sur RMC Sport, valide ton pass, c'est l'heure de Paddock Pass et tout simplement rentre dans le club. Salut les amis, ravi de vous retrouver. C'est le débrief de la deuxième manche de cette saison 2026 de Formule 1 Grand Prix de Chine. Est-ce qu'on s'est régalé, est-ce qu'on s'est pas régalé? On va en parler pendant près d'une heure tous ensemble avec tout simplement les meilleurs chroniqueurs F1 qui puissent exister dans ce pays, sur le continent, mais dans le monde entier aussi. Et j'ai commencé par monsieur Brice Germain. Comment ça va Brice?
Ça va et toi?
La forme, tranquille. Ravi de vous retrouver les gars. Plateau à 3 aujourd'hui. On le rappelle, la semaine dernière on vous annonçait le retour de des pieds longs. On sera à 4 tout au long de cette saison, mais ça va tourner. Et aujourd'hui, on retrouve le duo magique, le duo que tout le monde connaît, que tout le monde nous envie, on peut le dire.
Oui, peut-être. Je ne sais pas si c'est Iniesta Xavi ou Nivet Casri, tu vois. J'arrive pas à savoir.
J'ai beaucoup d'amour pour Nivet et Casri.
Je sais. Hamza, pareil.
En face de toi, monsieur Hamza Rahmani, comment il va, Hamza?
Ça va, très bien.
Impec, regarde les gars.
Tout va bien.
Tout va bien.
Écoute, ouais. Course intéressante quand même.
Ah bah tiens, c'était l'une des premières questions que je voulais vous poser les gars. Déclat de Max Verstappen, tiens, on commence tout de suite avec une petite déclat, regardez. Qui nous dit, Max Verstappen, si quelqu'un aime ça, c'est qu'il ne sait vraiment pas ce qu'est la course automobile. Alors la question que j'ai envie de vous poser les gars, est-ce que vous vous êtes régalé avec ce Grand Prix de Chine? Est-ce que vous êtes senti visé par cette déclaration?
Non.
Parce que moi j'ai bien aimé ce qui s'est passé dimanche.
Oui et non, tu vois, tu commences à être séduit forcément par quelques mouvements. Après, tu te rappelles de ce qu'il y a à l'intérieur, mais encore une fois, intéressant, plaisant. Sur ce que tu vois, oui, dans la manière, pas forcément, mais intéressant, vraiment.
Est-ce qu'il a vibré, Hamza?
Non, Alonso a vibré.
Disons que les batailles intra-équipe sont forcément passionnantes parce que tu as le même matériel, mais lorsque tu as un moteur Mercedes face à un moteur Ferrari et une Mercedes face à une Ferrari, il n'y a pas vraiment de... En fait, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de lutte, si ce n'est perdre du temps, mais là on y reviendra dans quelques instants. Je vois les commentaires parfois chaleureux, pour ne pas dire, pour certains même dithyrambiques. Non, je n'ai pas été émerveillé par cette course. Après oui, j'ai pris plus de plaisir à regarder les Chines que l'Australie.
Exactement. On expliquera pourquoi dans quelques instants, justement, les quatre enseignements qui s'imposent à nous après l'arrivée de ce Grand Prix de Chine. On l'appelle le deuxième Grand Prix d'une saison qui ne comptera d'ailleurs que 22 courses, plus que 22 courses, puisque deux ont été annulées. On y reviendra aussi. Andrea Kimi Antonelli se fait un nom. Ce sera le premier enseignement. On reviendra sur la première victoire d'un Italien 20 ans après Fisichella. Tout le monde dit merci Ferrari. Oui, tout le monde dit merci Ferrari parce que le spectacle a été produit hier par la Scuderia. Mais est-ce que le spectacle ou est-ce que les deux pilotes ont joué le jeu justement de l'équipe? On y reviendra dans cette émission. L'instant paddock, c'est l'instant coulisses, c'est la petite image qui a popé dans ce week-end et ça concerne Fernando Alonso qui a conduit sans les mains les gars. Et vous verrez, il y a deux raisons pour lesquelles il a conduit sans les mains ce week-end. Je vous en dis pas plus, ce sera bien sûr le rendez-vous de la mi-émission. On parlera aussi également du midfield, Haas et Alpine qui ont performé, la bataille du milieu. Est-ce que ce sont désormais les rois des autres? En tout cas, c'est Alpine, on en parlera. Et puis, la gueule de bois pour McLaren et Red Bull, qui étaient les deux équipes à battre la saison dernière et qui ont très, 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 très mal vécu ce rendez-vous chinois. Avant de rentrer dans le vif, on se rappelle quand même le résultat de ce Grand Prix. La première victoire, notamment, de Andrea Kimi Antonelli, qui est devenu aussi ce week-end, le plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1. Il devance à l'arrivée son coéquipier George Russell, nouveau doublé pour Mercedes. Hamilton, qui réalise le premier podium de son histoire avec Ferrari en Grand Prix. Il devance aussi son coéquipier Charles Leclerc. Et puis derrière, des réjouissances, Berman 5e, Pierre Gasly dans le top 6, Liam Lawson aussi qui prend de très beaux points. Et on signalera aussi les premiers points de Isaac Hadjar, le premier point de Franco Colapinto. Mais vous avez compris, on va en parler tout au long de cette émission. Allez, on fonce tout de suite. Le premier enseignement, c'est Andrea Kimi Antonelli. Première victoire, premier hat-trick pour le pilote italien. 20 ans que l'Italie a attendait une victoire justement au Grand Prix 20 ans après Giancarlo Fisichella, vainqueur en Malaisie en 2006 sur Renault, on le rappelle. Un week-end résilient pour Andrea Kimi-Antonelli. Une saison enfin lancée, c'est la question qu'on a envie de vous poser. Il y a eu son erreur en EL3, Melbourne, les départs manqués. Il était quelque part le maillon faible de Mercedes, laissant souvent Russell à 2 contre 1, aidé par les soucis justement de son coéquipier en qualification. Le problème technique en Q3 qui a plombé le Britannique et qui a ouvert la voie justement à ce record de précocité. 1 an et demi de mieux que Sébastien Vettel. Mais il ne faudra pas oublier dans ce succès bien la gestion de l'Italien dans le deuxième relais de la course, malgré une erreur qui aurait pu lui coûter cher. Et on va le voir qui, en tout cas, a coûté cher au pacemaker de Toto Wolff. Shanghai qui confirme aussi, les gars, c'est l'autre thème, l'archi-domination de Mercedes. On avait parlé d'une typologie extrême à Melbourne. Les écarts à l'arrivée sont plus importants. Ferrari à 25 secondes. Mais on en reparlera dans l'enseignement 2. Il y a peut-être d'autres explications. Cette première victoire de Andrea Kimi-Antonelli, elle arrive quelque part à point nommé dans un momentum quasi parfait pour lui.
Un momentum nécessaire si on ne veut pas voir uniquement George Russell s'envoler au championnat du monde. Parce que quand c'est ta deuxième saison en Formule 1, qu'à côté de toi, avec quelqu'un qui a rongé son frein chez Williams pendant 3 ans, qui s'est retrouvé à côté de Lewis Hamilton à bord d'une voiture qui est faite pour la gagne et qui se retrouve aujourd'hui en position un petit peu esselée pour gagner, si tu n'as pas une adversité interne, effectivement, ça peut rapidement devenir compliqué. Là, ce qu'a produit Kimi-Antonelli, avec des circonstances justement qui ont, entre guillemets, facilité le fait qu'il aille chercher ce déclic, comme tu l'as évoqué, pour moi, ça l'inscrit dans un état d'esprit où il peut effectivement lutter avec George Russell. Et ça, c'est très important. Les déboires de George Russell mettent possiblement les cartes sur la table pour une lutte au titre, si tant est qu'on croit que Ferrari ne revienne pas dans cette lutte. Mais en tout cas, il devrait y avoir effectivement bataille entre Antonelli et Russell, parce que ce petit déclic de la première victoire, on l'a vu chez Norris, on l'a vu chez Piastri, ça déclenche quelque chose chez les pilotes et il peut se placer aujourd'hui en contender.
La victoire du déclic, justement, Hamza, et un niveau, je pense notamment au second relais, où peut-être on n'attendait pas encore Andrea Kimi-Antonelli.
Oui, alors facilité aussi par George Russell qui se retrouve en plein milieu du peloton après son arrêt sous voiture de sécurité. Ça a forcément aidé Antonelli qui en plus avait une sorte de barrière de protection avec Colapinto et Esteban Ocon,
je crois.
Donc t'avais une barrière de protection qui lui a permis de s'envoler assez rapidement. D'autant plus que les problèmes qu'a pu avoir George Russell justement au restart, avec manifestement une difficulté à chauffer la gomme par rapport à la Ferrari, ce qui explique que les deux Ferrari ont pu passer Russell assez facilement après le restart. Antonelli, on ne l'a pas vu finalement sous pression, parce que Colapinto et Ocon avaient des pneumatiques usées et de toute façon pas la performance monoplace pour aller le chatouiller.
Mais il avait les mêmes problèmes. Hein. De chauffe de la gomme dure. Il avait les mêmes soucis, sauf que c'était pas les deux Ferrari qui étaient à la lutte.
C'est
avec
ça.
Lui.
Donc en fait, on sait pas à quel point il aurait pu ou pas résister, quelle aurait pu être sa gestion. Je pense notamment au crash avec Isaac Hadjar et sa déclaration justement sur lorsque tu es Antonelli, que tu as une Mercedes, t'as pas forcément la nécessité ou d'urgence à dépasser. T'as une meilleure voiture et quoi qu'il arrive, tu vas finir au pire, allez, deuxième ou on va dire sur le podium. Là, c'est vrai qu'à Antonelli, surtout au lendemain de cet accident avec Isaac Hadjar, j'aurais bien voulu voir quelle aurait été sa réaction et quelle aurait été sa gestion de course dans le cas où il avait été menacé par que ce soit Leclerc, par Hamilton, peut-être même dépassé. Est-ce qu'il aurait résisté ou est-ce qu'il aurait dit « Écoute, mon heure, elle va arriver de toute façon, j'ai une meilleure monoplace ». C'est aussi ça la progression d'un pilote, ce n'est que le début de sa deuxième saison en Formule 1.
Clairement. Et ça, on l'a vu au premier relais, parce que sur le départ, bon, il se fait manger par une Ferrari qui a encore visiblement une charge de turbo meilleure que celle de Mercedes, mais il réussit à défendre sur Leclerc d'une manière assez rude quand même, c'est-à-dire qu'il va aller fermer la porte en lui disant « ton pote il est passé, toi tu passeras pas », et il envoie Leclerc sur un vibreur qui met dans une situation très délicate à la réaccélération du T2.
Mais c'est différent. C'est différent parce qu'à ce moment-là, tu as George Russell qui potentiellement peut lutter pour la victoire, alors qu'après la voiture de sécurité, Russell, sauf accident, il est écarté de la victoire parce que t'as la même monoplace que Andrea Kimi-Antonelli. Donc t'as une marge de sécurité par rapport à Russell qui peut te permettre, toi Antonelli, d'être davantage dans la gestion face à une Ferrari ou face aux deux Ferrari, alors qu'au départ, il y a le danger de même si je résiste ou que je ne résiste pas face au Ferrari, George Russell, il peut me prendre la position. Et t'as l'impression aujourd'hui qu'entre Russell et Antonelli, la performance, elle est tellement importante, et l'influence de la monoplace, elle est tellement importante dans la performance des deux pilotes, que celui qui se retrouve devant au premier virage, c'est celui qui va gagner la course.
Ah, je suis pas sûr, parce que tu vois quand même Russell qui a un rythme beaucoup plus élevé dès qu'il passe les Ferrari, à mon avis, enfin, quand tu vois Russell aussi depuis le début de saison, il est quand même régulièrement devant en termes de perf pure. Le tour de Q3, au vu des circonstances qu'il a, il le fait pas parce que il a pas forcément tous les repères qu'il faut à ce moment-là pour le faire aussi bien que Kimi Antonelli. Mais sur le second relais, sur les hard, George Russell, après avoir eu lutte avec les Ferrari, après être resté en sillage des Ferrari, il est plus vite et il remonte. Et Andrea Kimi Antonelli a ce petit accro au virage 16, 15 ou 16, je sais plus. Donc du coup, je suis pas sûr que ça aurait fait petit train. Je pense effectivement que on aurait pu revoir des scènes Rosberg Hamilton, et que maintenant que Lewis Hamilton n'est plus dans cette écurie, à mon avis, Toto Wolff ne va pas mettre de numéro 1, numéro 2 si potentiellement il y a bataille.
Justement, et cette victoire, elle est importante, tu le disais, dans cette optique de gestion interne, d'envoyer un message du côté de Mercedes. Et mine de rien, si, c'est un gros si, mais on peut peut-être aujourd'hui légitimement le penser, même si encore une fois la bataille aux évolutions rend encore cette saison largement illisible, mais si on est dans une optique de domination Mercedes et d'un titre qui se jouera entre les deux pilotes, on peut légitimement penser qu'à un moment ça va se frictionner et ça va cracher. Même si on disait ça la saison dernière de Piastri et Norris, et que finalement ça a été plutôt bien géré, je parle de la gestion des pilotes suite à des accidents, et du coup on a empêché aussi d'autres crashs, donc ça a été très bien géré par McLaren la saison dernière. Mais du côté de Mercedes, en fait, faut pas qu'Antonelli, au moment où tu as cet accrochage avec George Russell, se retrouve en position d'infériorité déjà numérique au classement, d'infériorité par rapport à la domination de ton coéquipier et de ne plus avoir de carte en main. Il faut être à ce moment-là en capacité de réagir dans justement cette gestion interne, dans cette bataille interne.
Et même pour Mercedes, les gars, parce que quand on prend le scénario de la première course à Melbourne, quand on prend le scénario de la course sprint du côté de Shanghai, à un moment donné, George Russell s'est retrouvé à 1-2 face aux deux Ferrari. Ça peut être aussi à un moment donné problématique dans cette saison. Important que Andrea Kimi Antonelli ait fait le plein de confiance comme il vient de le faire justement dans cette course. Deux déclarations intéressantes d'Andrea Kimi Antonelli. Hier, le mot course au titre était complètement interdit, en tout cas dans les propos de Toto Wolff et du pilote italien. Alors déjà, il s'exprimait sur sa victoire, il dit « J'ai dit hier que je voulais ramener l'Italie au sommet, j'ai réussi, je me suis donné une petite crise cardiaque à la fin avec un blocage de roue, mais c'était une belle course. » On rappelle juste la sortie, comme tu l'as dit, je crois virage 15 ou 16. En fait, Andrea Kimi Antonelli est à l'attaque à bloc, et à ce moment-là, il fait une erreur, il sort, et la colère de Toto Wolff qui va voir Peter Boynton et lui dit « Mais attends, mais il faut arrêter tout de suite, faut qu'il lève le pied. » Sauf que Toto Wolff expliquait à la fin de la course qu'il est un petit peu, allez, le trait d'union, on verra, on va lui laisser du temps, mais il est un petit peu comme Ayrton Senna, c'est-à-dire que c'est tout ou rien. Voilà, c'est pied au plancher ou sinon c'est un petit peu plus compliqué. Andrea Kimi Antonelli qui disait aussi ceci à propos, notamment lorsqu'on le questionne sur la lutte pour le championnat, il dit: nous n'en sommes qu'au début, on va continuer à tout donner. George est un pilote incroyable, fort dans tous les domaines, et ce sera difficile de le battre, mais j'apprends énormément de lui. On verra où nous en serons en fin d'année. Et puis Toto Wolff également à la télé italienne, ça c'est intéressant, à Sky Sports Italia, il disait ceci, Toto Wolff, il dit: je vois déjà les gros titres, champion du monde, grande des Kimi et tout le reste, et ce n'est vraiment pas une bonne chose parce que des erreurs vont forcément arriver, il n'est encore qu'un enfant, il est bien trop tôt pour penser au championnat.
Il vient de résumer tout Ferrari avec cette déclaration. Non, mais encore une fois, moi je trouve que c'est un pas important dans sa carrière. Je parle pas de championnat, je parle dans sa carrière, dans le momentum dans lequel il est avec cette voiture-là. C'est important de faire ça maintenant. Pourquoi ? Parce que t'as un crash en essai libre 3 en Australie où il dézingue sa voiture. Derrière, la performance, il réussit à la ramener deuxième, il réussit à faire doubler, mais quand même, il est dans l'ombre de George Russell parce que George Russell ne fait pas ce qu'a fait Antonelli. En sprint, boum, il prend 10 secondes de pénalité. Il finit hors du podium de la sprint, et derrière, il va se servir d'un pépin, parce qu'au final, le début, c'est le pépin de Russell en qualification, c'est le début de tout ça, pour aller justement appliquer cette résilience en course. sincèrement, comme tu l'as dit, c'est tout ou rien, visiblement. Mais c'est quand même fort d'arriver à rebondir de cette manière-là quand tu sais que l'année dernière, pendant 8 mois, et il l'avait dit, il n'était pas bien mentalement et que le sport était beaucoup pour lui, c'était trop pour lui. Là, arriver à réagir d'un coup et justement ne pas se laisser abattre par ces événements-là, ça montre quand même d'un Kimi Antonelli qui, visiblement, a un petit peu mûri par rapport à la saison dernière. À voir sur le long cours, mais sur le début de saison, c'est quand même déjà pas mal pour un sophomore, quoi.
Et tu sens à sa réaction à la radio de Toto Wolff que il y a deux options. Moi, la première option, très sincèrement, c'est je m'accapare un petit peu la victoire d'Antonelli avec toutes les déclarations. Il fallait pas le mettre, et il est trop jeune, et il s'est crashé, etc. Et nous, et moi, j'ai fait le bon choix. Et puis, dans un second temps, et ça corrobore un peu ce que tu dis, Brice, je me dis peut-être aussi qu'Antonelli, et c'est vrai qu'on a eu ces images la saison dernière, il a vraiment été touché la saison dernière par toute cette pression, par toutes ces critiques, et que c'est une sensation aujourd'hui d'une première victoire qui est évidemment une première étape et seulement une première étape, mais qu'elle est importante aussi. Et justement, le fait que ça arrive très tôt, c'est hyper important par rapport à tout ce qu'il a pu vivre la saison dernière, justement sur cet aspect émotionnel.
Encore une fois, il commence sa carrière en F1 avec un tour en essai libre en soft, ça n'arrive jamais.
À Monza.
À Monza.
À domicile.
Tu
ouais.
vois, en fait, Mercedes n'a pas forcément joué tout le temps le jeu de la protection d'Andrea Kimi Antonelli. Ils ont assez souvent joué le jeu de l'Italie avec ça. Et maintenant, peut-être qu'ils changent de braquet et c'est ce qu'il faut aussi pour que le gamin se sente bien et qu'il évolue bien, parce que si c'est une pépite, n'allons pas la gâcher.
Exactement. Les gars, une petite relance sur Mercedes quand même. L'archidomination avant le... Alors, on sait que Mercedes a clairement un avantage dans le rythme de course, encore plus sur un tour rapide. Mais il y avait cette question quand même hier, avant le départ du Grand Prix de Chine. Est-ce que Ferrari ne pourrait pas être un petit peu plus à la lutte qu'on ne l'avait vu du côté de Melbourne à l'arrivée, 25 secondes d'écart entre la première Mercedes et la première Ferrari, cette domination, on a l'impression qu'elle s'est un petit peu plus affirmée, en tout cas sur ce deuxième rendez-vous.
À l'air libre.
C'est vrai.
On n'avait pas pu forcément en profiter tellement en Australie parce que la safety car avait rebattu les cartes assez vite et les stratégies s'étaient un peu diversifiées. Mais force est de constater que, alors je ne sais pas si Russell avait baissé le pied et du coup, il a déclaré qu'il attendait un crash des Ferrari. Mais est-ce que pour autant il était en mesure de dépasser? C'est pas sûr. Quand les deux Ferrari sont en bloc, visiblement les Mercedes, elles font un peu klaxon. Elles ont peut-être beaucoup plus de rythme à délivrer, mais en attendant, quand elles sont derrière, et elles vont l'être régulièrement si Ferrari prend des bons départs.
On retient ce qu'il vient de dire pour l'enseignement Ferrari, c'est très important. Sur les blocs, les
blocs. Il fait des disclaimers, je ne sais pas de quoi il va parler.
Non, mais
je pense que les deux Ferrari en bloc créent un problème à Mercedes.
Exactement.
Et bah, Antonelli peut se défaire de Lewis Hamilton seul, Russell peut se défaire de Leclerc ou d'Hamilton seul, mais quand les deux se battent, je pense que c'est très compliqué, sauf décharge complète de la batterie, jeu auquel a joué Ferrari. Mais en attendant, oui, il y avait un écart plus grand en course qu'en Australie, mais pour autant, je l'ai presque moins senti sur le premier relais ou sur la première moitié de course. Et quelque part, si les forces et faiblesses de chacun vont vers une convergence un peu en course, ça me va. Hein, tu vois, enfin, le premier relais, si tu parles spectacle et si tu parles indécision, bah, je me suis régalé. En termes d'indécision, je ne savais pas forcément ce qui allait se passer. Donc quelque part je signe ce contrat là
mais c'est quand même aidé par le scénario du début de course. Tant que Ferrari aura cet avantage au départ,
tu
auras toujours ce doute et tu auras toujours un premier relais finalement assez passionnant. Mais le jour, s'il arrive cette saison où on n'a plus cet avantage du côté de la Scuderia, on pourrait avoir des premiers relais beaucoup plus ternes.
Mais avantage compensé certainement par une évolution sur la traînée avec un aileron arrière qui va changer chez Ferrari. Enfin, tu vois, en soi, on peut parler des si ou des quand ça va être réglé, mais Ferrari...
Mais c'est plus spectaculaire.
Oui,
mais le départ, en fait, t'as l'impression que tu te qualifies cinquième, tu te retrouves premier au premier virage.
Encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, et peut-être que je lis mal la situation, mais j'ai vraiment le sentiment que Mercedes a un avantage moteur énorme, mais que Ferrari a une plateforme très large de développement, parce que le châssis est excellent.
C'est le meilleur châssis, on est d'accord, les gars.
Oui,
on en parlait tout à l'heure.
La statistique que j'ai vu passer, ouais, sur les virages lents, où Ferrari met 6 dixièmes à n'importe quelle équipe c'est sur les virages lents en Chine. Je sais pas si vous vous rendez compte,
de la fouille.
6 dixièmes de différence par rapport à toutes les autres meilleures voitures, y compris les Mercedes, sur les virages lents en Chine.
Ouais. C'est saisissant, c'est saisissant. Regardez, Toto Wolff, il est quand même un peu circonspect quand on lui parle, on lui dit « Bon là, vous avez une voiture archi-dominante, normalement le championnat est pour vous. » Regardez la réaction, bon, il y a un peu de politique et d'intox peut-être, il dit « Il est bien trop tôt pour penser au championnat. Nous avons une bonne voiture qui, à ce stade, est capable de gagner des courses. Voyons quelles manœuvres politiques vont apparaître dans les prochaines semaines. »
Ah, le taux de compression, il l'a dans le nez. Hein,
tu sens qu'en effet, il reste méfiant, Toto Wolff, et on l'a dit, cette domination, pour le moment, c'est sur les deux premiers Grands Prix. On attend bien sûr de voir les avancées, notamment de cette guerre au développement. Les gars, parlons de Ferrari, parlons du deuxième enseignement. Merci Ferrari, merci pour le spectacle, merci en tout cas pour l'adrénaline. Franchement, moi j'ai eu quelques moments de frisson quand même.
Ah, c'est autre chose que les papayas roulent, ça.
C'est autre chose que les papayas roulent. Tiens, d'ailleurs, juste pour terminer sur Mercedes, Toto Wolff a dit qu'il n'y aurait pas de papayas roulent hein, chez eux, qui seraient autorisés à lutter, les deux pilotes. On verra, bien sûr, on aura l'occasion de s'en rendre compte.
Jusqu'à Barcelone, voilà. En 2016. Ouais, et voilà, quoi. 10 ans après.
Tout le monde dit merci à Ferrari. Moi, franchement, j'ai eu des frissons devant ma télé. Je suis peut-être tombé dans le piège. Peut-être que je n'y connais rien à cette discipline. Mais c'est vrai que cette bataille a été magnifique. Le premier point que je voulais aborder avec vous, les gars, c'est Lewis Hamilton. Est-il de retour? Premier podium en Grand Prix avec Ferrari. Clairement son week-end référence avec la Scuderia face à un Leclerc qui, il faut quand même le dire, comme chaque année, est moins à l'aise, en tout cas du côté de Shanghai, ou en tout cas éprouve certaines difficultés. L'abandon du fameux aileron aussi Macarena, ça a rythmé un petit peu ce week-end. La SF26, tu l'as dit Hamza, la meilleure F1 aussi également en virage, preuve que le châssis est bien né. Peut-être manque de puissance, en tout cas par rapport à Mercedes en ligne droite. Et vraisemblablement, après avoir retesté l'aileron arrière Macarena en EL1, celui-ci semble avoir été mis de côté car déstabilise l'arrière lors de son activation. Sans oublier bien évidemment le point fort de Ferrari, vous en avez parlé tout à l'heure, les départs tonitruants grâce au turbo magique. La bataille, Leclerc-Hamilton. Alors, on s'est régalé, mais est-ce que ça s'est pas fait au détriment de l'équipe? Ça a été le piment du week-end en sprint, en Grand Prix, la guerre des chefs, la guerre des clans au sein de la Scuderia, beaucoup de spectacles. Mais est-ce que cela a fait vraiment les affaires de Ferrari? On a eu un 2-1, notamment en sprint avec Russell. Il y a eu la remontée aussi également de Russell en course. Fallait-il jouer plus collectif, plus stratégique pour aller chercher plus de points, ou au contraire fallait-il assurer le spectacle et laisser ses pilotes eh bien se battre en piste? C'est l'une des grandes questions que j'ai envie de vous poser. Et puis la question qui vient derrière, c'est est-ce que ça peut dégénérer, les gars? La belle entente, on a entendu beaucoup de respect, la radio de Charles Leclerc qui dit waouh, quelle bataille, quel régal, quel gentleman ce Lewis Hamilton. Mais est-ce que cela peut vraiment perdurer dans le temps? Bref, Ferrari, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord leur dire merci, mais après se poser les vraies questions.
Alors, on va séparer l'aspect émotionnel du téléspectateur.
Bien sûr.
Et l'aspect...
Et l'analyse du spécialiste.
Gestion d'une équipe. Moi, évidemment, je pense que c'est le cas de tout le monde en tant que téléspectateur. Régalade.
Ah ouais.
Voilà. Et là, justement, dans cette nouvelle ère de réglementation, tu t'aperçois d'une chose. Après, j'ai pas envie de tomber dans le piège non plus, mais tu t'aperçois d'une chose, c'est que ces monoplaces produisent vraiment beaucoup moins d'air sale.
En début de réglementation,
c'était pareil en 2022.
Voilà. Ouais,
2022.
Ouais, début, ouais.
Donc, c'est pour ça que je suis assez prudent et j'ai envie de voir la suite, parce que de toute façon, le but des écuries, ça va être de produire de l'air sale pour avoir de plus en plus de mal à suivre les monoplaces. L'aileron Macarena, on en parle très peu, mais c'est aussi ça. C'est que on parle évidemment de la réduction de la traînée, mais le fait d'ouvrir l'aileron dans l'autre sens, ça crée un flux d'air qui est totalement différent. Et dans les zones de freinage, le jour où Ferrari, s'ils y parviennent, pourront l'exploiter en course, je pense qu'on pourrait avoir des situations bien différentes avec les écuries et les voitures face auxquelles elles se battent. Maintenant, pour revenir sur la gestion, oui, moi je me suis régalé. Par moments, il y a eu des instants de frayeur. Mais en fait, il y a des instants de frayeur tout en sachant en même temps que tu as une confiance totale envers ces deux pilotes. Tu vois, ça veut dire que le millimètre d'espace qu'ils vont laisser avec fermeté, dureté, mais respect, je ne sais pas pourquoi, mais avec ces deux pilotes, je me dis pas, ça va cracher. Et pourtant, tu retiens ton souffle.
Ah ouais, des moments
à plusieurs
où
reprises,
t'as les
tu
frissons,
te dis,
hein.
Ouais. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi encore à avoir peur avec eux. Et puis ensuite, il y a la gestion de l'équipe. Et là, sincèrement, je ne comprends pas que sur une première partie de course, tu n'aies pas une stratégie où, je parle pas de consigne d'équipe, parce que je suis pas en train de dire, il faut interdire les dépassements. Mais céder mutuellement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur l'enseignement précédent, être en bloc. Parce qu'effectivement, moi aussi, je constate que deux Ferrari, lorsque tu es George Russell derrière et que tu te bats à 2-1, c'est beaucoup plus compliqué à passer. Donc pourquoi ne pas se servir de cette supériorité numérique pour progresser ensemble. Soit se doubler à chaque tour avec le mode overtake et je te donne le mode overtake et le tour suivant tu me le donnes, etc.
Oui, et ça change la batterie en fait en faisant ça, il s'aspire et derrière.
Et c'est beaucoup plus compliqué pour George Russell et tu essayes de réduire plus ou moins le déficit de puissance que tu as vis-à-vis du moteur Mercedes. Mais c'est vrai que après le deuxième restart notamment où j'évoquais tout à l'heure l'avantage lié à la température pneumatique de la Ferrari et le fait qu'elle soit plus rapide que Russell et que Antonelli aussi et qu'ils aient été en capacité et Leclerc et Hamilton de doubler assez facilement George Russell, pourquoi à ce moment-là lorsque Ocon et Colapinto sont éliminés, pourquoi vous battez? En vous battant, le chrono, on le voit, en l'espace d'un tour et demi, vous perdez quasiment 3 secondes sur Antonelli.
Ils en perdent 7 au total, je crois, dans l'affaire, jusqu'à ce que Russell passe.
Alors encore une fois, moi, le téléspectateur, il s'est régalé. Mais dans la stratégie ou dans l'optique, la vision d'aller chercher une victoire,
en fait,
tu perds du temps quand même.
Tant que Russell n'est pas passé, ça n'a aucun sens de faire ça. Parce que tu fais 2 et 3, en l'état, t'es 2 et 3. Bah, tente de maintenir le 2 et 3 à la manière de Carlos Sainz Singapour 2023. Tu te sers de Norris pour te protéger de Russell et au final ça a payé, il a gagné le Grand Prix. Je dis pas que ça aurait marché parce qu'il restait 35 tours. Donc évidemment,
depuis
à un moment donné,
c'est différent les zones de dépassement.
Voilà. Mais la puissance de la Mercedes peut peut-être faire une diff à un moment donné, l'usure des pneus, on n'en sait rien. On n'a toujours pas vu de stratégie pneumatique cette saison. Mais c'est vrai, il y a eu ces safety cars à chaque fois qu'il y a eu un arrêt. Donc, mais quand même, tu te dis, bah, il y avait des positions à sauver et en faisant ça, t'as ruiné les deux batteries, t'as tapé dans ton capital pneumatique pour au final offrir une place à un George Russell qui va pas avoir besoin de toi pour aller la chercher dans 80% des cas. Donc quand t'es devant et que t'as un fait de course dans ces moments-là, tu te dis bah oui, jouons en équipe. Qui se bat après quelque part quand t'as 30 secondes d'avance sur les autres? Bah, on est d'accord, on se sera régalé et on va pas bouder le fait de s'être régalé.
Encore une
simplement
fois,
quand t'es Fred Vasseur, quand t'es Fred Vasseur et que t'avais potentiellement 33 points si tu bouffais, enfin si tu construisais quelque chose d'un peu ben voilà, pour aller chercher en fait le fait de défendre sur Russell, tu te dis que potentiellement ils ont facilité la tâche à George Russell. C'est juste ça. Mais sinon tu peux pas bouder le fait que c'était incroyable à voir. Alors certes, c'est artificiel dans la manière de le faire avec de la gestion d'énergie, mais par contre le pilotage pour maintenir les voitures à ne pas se toucher et à maintenir les trajectoires et les espaces en piste, ça c'est pas de la batterie, ça c'est du pilotage. Oh, et ça pour le coup, franchement, mais
on a
chapeau,
vu des morceaux de bravoure, hein. On a vu des moments de courage, on a des moments chauds, hein.
À l'heure actuelle, je ne vois aucune écurie qui peut avoir deux pilotes qui peuvent faire ça dans l'écurie sans se toucher. J'en vois aucune à part Ferrari là.
Frédéric Vasseur, les explications, les gars, sur les non-consignes, justement, ou le fait de les laisser à la fois se battre et perdre du temps, comme vous l'avez parfaitement expliqué. Il disait à Canal, je dois être honnête, parfois on a un peu peur. Tu m'étonnes. Je leur fais confiance et bien sûr c'est toujours délicat parce qu'il est difficile de les arrêter, mais je ne veux pas leur demander de figer les positions. Je pense que ce serait injuste. Ce sont des professionnels et c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour la Formule 1 et je préférerais que cela reste ainsi. Les gars, comment vous expliquez justement le fait que Ferrari n'intervienne pas? C'est on ne veut pas biaiser les explications entre deux numéro un, parce que moi derrière cette bataille j'ai quand même l'impression tout au long de ce week-end que justement il y a l'affirmation du combat des chefs, genre marquer mon territoire, c'est moi le patron. Il y a un petit peu cet esprit là, c'est-à-dire que là on est en début de saison, ça va, tout va bien, l'humeur est au beau fixe. Si demain Ferrari arrive avec une évolution qui leur permet de faire un bond en avant, ça pourrait se durcir un petit peu plus, ça pourrait avoir d'autres conséquences cette bataille en piste.
Disons qu'aujourd'hui c'est satisfaire l'ego des deux pilotes. Dès le deuxième Grand Prix, au momentum du deuxième Grand Prix, t'as pas la performance pour aller chercher un championnat. La victoire est un peu loin quand même par rapport à la position d'Antonelli. C'est satisfaire l'ego et s'éviter des problèmes justement dans la gestion des pilotes à terme.
Quand t'as un line-up à 100 millions d'euros par an.
pour un pilote, hein, 100 millions.
Non, 75 il est, non?
Ah ouais? Ok.
Je sais plus. Bah bref, ça se trouve c'est 130 du coup.
À 25 près.
140. Ah, okay. Ah bref, je vous rappelle que c'est quasiment le budget de cap. Du coup, heureusement que le budget pilote rentre pas là-dedans.
Hein. Ah, tu m'étonnes.
Parce que Johnny Elkann, il aura du souci à se faire. Ça bosserait avec des briques à Maranello.
Il est Péro Black, tu sais.
Oh, c'est pas dit que ça se passe pas. Hein. N'oublie pas, on est en Émilie-Romagne.
Non.
Non, mais avec un.
Pas toi.
Pas toi. Pas comme ça.
Moi,
pas
je
maintenant.
Peux me permettre. Puisque la famille vient de Modène, donc je peux me permettre.
Et il se justifie.
Oui, au cas où, tu vois.
En fait, il paye ses travaux au Black. C'est ça qu'il va comprendre.
Ça peut arriver. Bref. Non, non. quand t'as ce line-up là, tu vas pas forcément trop pouvoir dire grand chose quand même. Hein. Je pense que si t'as des explications logiques, mais là, en l'occurrence, je pense que Ferrari, c'est peut-être un petit peu le truc qui pourrait leur faire défaut le jour où la voiture sera en capacité de jouer le titre. C'est que j'ai pas forcément l'impression que dans la radio, il y a une communication de dirigeant à diriger, de patron à employé. Et Lewis Hamilton, c'est Lewis Hamilton qui est son patron. Pas grand monde, ouais. Quand même.
Kimka, peut-être.
Éventuellement. Charles Leclerc, tu sens quand même que c'est le gamin loyal de l'écurie, mais qui essuyait toutes les crasses, et que le jour où tu arrives à justement lui faire une crasse, c'est peut-être le moment de trop aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté où on se dit, voilà, on n'est pas de taille à lutter contre deux mecs qui sont à 350 et qui sont en train de s'envoyer des fions de tous les côtés, là. Donc, je sais pas. Je pense que ça pourra leur faire défaut un jour si on a une lutte au titre. Pour le moment, ça reste quand même un Lewis Hamilton qui a 41 ans, qui kiffe, un Charles Leclerc qui kiffe avoir une voiture qu'il est capable de conduire et qui peut l'amener au podium sans faire des folies pour y arriver. Donc là, c'est peut-être le calme avant la tempête. En attendant, c'est le calme, et je suis pas sûr qu'hier il y ait eu une guerre des chefs. Je pense qu'ils ont juste kiffé s'amuser, réellement.
Je vous relance sur Lewis, les gars. Quel week-end de Lewis. Alors on sait qu'il est très à l'aise à Shanghai. On sait aussi, faut quand même le préciser, parce qu'on sait que Charles Leclerc a souvent eu des difficultés sur certaines portions justement de ce tracé chinois. Il était un petit peu, on va dire, en dedans. Lewis Hamilton, premier podium en Grand Prix avec Ferrari. Frédéric Vasseur nous disait ceci justement hier à l'arrivée, toujours chez Canal. Il dit la performance de Lewis est une étape importante, comme pour Kimi d'ailleurs chez Mercedes, pas pour les mêmes raisons, mais c'est important pour la suite de cette saison, et je suis sûr que cela nous aidera à revenir. Est-ce qu'on peut commencer à évoquer les prémices d'un retour au premier plan de la légende Lewis Hamilton, ou c'est encore trop tôt et on était sur une typologie de circuit qui lui va bien et qui ne sied un peu moins à son coéquipier?
Disons qu'il y a un langage, une communication verbale et non verbale qui se dégage d'Hamilton que je n'avais pas forcément vu, notamment sur sa dernière année chez Mercedes. Alors forcément, la première année chez Ferrari, il y a l'excitation, il y a la découverte aussi. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il laisse paraître. Je suis ravi de le retrouver.
Oh oui.
J'ai l'impression de l'avoir un peu perdu.
Ouais, et du coup, quand tu le retrouves, ça faut se mouiller la nuque, parce que oui, c'est Lewis Hamilton quand même. Enfin, bah, tu vois, c'est...
Bah, tu te rends d'autant plus compte quand tu le vois aujourd'hui. Tu te rends d'autant plus compte que tu l'as peut-être perdu à un moment donné, malgré toutes les déclarations qu'il avait pu faire l'année dernière, quoi.
Oui, oui, bah, tu de toute façon, tu l'as perdu, tu le savais. Enfin, tu l'as perdu. Disons, tu l'as perdu en 2022 avec l'air à l'effet de sol. Tu l'as perdu face à ce qui s'est passé avec la FIA. Ça fait quand même 4 ans qu'il traînait son spleen d'une manière où il n'avait pas cette hargne avec laquelle il est revenu cette saison. Ses monoplaces lui sied davantage. C'est un énorme gestionnaire d'énergie, et à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez regardé, mais du coup, comme on a des infos en plus, il faut les regarder. C'est celui qui a le plus de batterie dans toutes les batailles. Tout le temps.
C'est vrai. Alors, mais il paraît que les infos sont tronquées.
Eh ben dommage.
Mais j'ai envie d'y croire.
Non, mais j'ai quand même le sentiment que ce règlement-là lui sied, et que dans l'intelligence de course, dans la manière d'aller gérer une bataille avec des outils qu'il va avoir en main, il sait faire. On l'a vu faire beaucoup plus de batailles que l'année dernière, beaucoup moins être à la merci de tout comme l'année dernière. Et aujourd'hui, les résultats parlent, quoi. 4-3-3, enfin avec le sprint. Enfin, c'est ça n'a rien à voir avec l'année dernière, rien à voir. Et puis l'écart avec Charles Leclerc quand il n'est pas devant lui, ça n'a rien à voir non plus.
Exactement. L'image incroyable, on vient de la voir. Brian Levavasseur nous l'a montré là justement, notre chef d'aide sur l'écran. C'est ce podium extraordinaire. Ça a été un vrai moment d'émotion sur la dernière relance que je vous fais, les gars. Bonington entre Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. Il y avait quand même un petit frisson, je trouve. Il y avait une autre dimension sur ce podium à l'arrivée.
J'ai presque le sentiment que Ferrari n'avait rien à foutre là.
Ouais, c'était bizarre. C'était un peu bizarre.
Il y avait un côté famille Mercedes, ouais, ouais. C'est genre la combi rouge.
C'est quoi ce déguisement?
Il n'y avait pas 3 voitures, c'est juste pour ça, quoi.
C'était un beau trait d'union, en tout cas, de l'histoire. Tiens, un dernier élément, puisqu'on parle de Ferrari, les gars, et qu'on parle de nouvelles réglementations. Vous le savez, les deux Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite ont été officiellement annulés. Ce qui fait qu'on aura un mois pour revenir sur tous ces débats, sur cette nouvelle réglementation, tirer un premier bilan, on va dire, avec les trois courses qui nous attendent. Donc on l'évoquera pas forcément, même s'il y a eu beaucoup de critiques pronostics de Max Verstappen hier. On l'évoquera pas forcément dans cette émission, mais point intéressant de Charles Leclerc. Vous avez beaucoup parlé de l'exercice de la qualification, qui est vraiment le point noir quand même de cette réglementation. Charles Leclerc disait ce week-end, par le passé, l'une de mes forces était simplement de prendre de très gros risques en Q3 pour essayer de gagner encore un peu de performance. Si vous faites ça maintenant, et j'ai essayé de le faire vendredi en qualif sprint, vous déréglez complètement la partie moteur et vous perdez beaucoup plus que vous gagnez. C'est-à-dire qu'en fait, l'un des meilleurs pilotes sur tour rapide de la génération et du moment, de ces dernières années, t'explique quand même qu'il ne peut plus aborder les qualifications de la même manière. Donc ça sera un petit tip, c'est un petit élément qui nous servira à juger cette nouvelle réglementation.
Il est revenu en détail sur les qualifications, Charles Leclerc, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et effectivement, on ne peut pas avoir des qualifications dans l'esprit de la qualification ancestrale, on va dire, puisque il dit que ces qualifications font la part à la régularité, c'est-à-dire que le mapping du logiciel et du moteur est prévu pour aller le plus vite possible sur un tour, c'est-à-dire que le déploiement d'énergie et la recharge d'énergie doit se faire de façon extrêmement précise à chaque endroit. Si tu tentes de passer plus vite que d'habitude à un endroit, tu vas dérégler la recharge et tu ne vas pas avoir, au moment où elle sera optimum, le niveau de batterie nécessaire. C'est pour ça qu'on a des écarts de 5, 7, 8 dixièmes en qualification entre deux tours du même pilote, parce que justement il faut avoir cette précision-là. Donc la qualification, effectivement, est devenue, par l'explication de Charles Leclerc, un exercice de gestion. Moi, ça ne me plaît pas. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec le fait que ça ne plaise pas, plein de gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que ça ne plaise pas. C'est mon avis. Mais en attendant, Charles Leclerc a expliqué. Notre boulot, c'est de rester le plus rapide possible sur un tour. Si le plus rapide possible c'est être sur un tour, bah va falloir être régulier et pas attaquer de trop. C'est malheureusement comme ça, et j'espère que la réglementation va évoluer dans les semaines à venir pour, à minima en qualification, avoir soit un développement thermique en plus, soit une recharge supplémentaire qui permette aux gars d'envoyer la purée, quoi.
C'est l'essence même du pilotage, c'est l'ADN du sport automobile qui a disparu avec cette réglementation pour la qualification.
Et mauvaise nouvelle les gars, information de The Race qui est parvenue très tard dans la nuit entre dimanche et lundi. The Race nous dit que les instances, la Formula 1 aurait fait machine arrière justement concernant il devait en fait, à post-chine, il devait y avoir une réunion avec les constructeurs pour évoquer justement les petites modifications à apporter à ce règlement, pour essayer de calmer la vindicte populaire aussi bien chez les fans que chez les pilotes. Et l'information donc dévoilée par The Race hier, c'est que cette réunion aurait été tout simplement soit annulée, soit décalée, parce que on serait parti du principe à l'arrivée de cette course qu'il y a eu tellement de spectacles hier en Chine que du coup il y aurait pas forcément besoin de changer les règles. Moi je suis d'accord avec toi, il y a vraiment un truc à faire sur les qualifs, on est tous d'accord je pense sur ce plateau.
Et dernier tout petit point, vas-y. Moi je suis dégoûté de la Real samedi, parce que aux deux tiers de la ligne droite, dès que le clipping commençait, ils changeaient de cam.
Ouais.
Et ils savent que c'est on-board que c'est le plus...
Ah, éloquent.
C'est le... Choquant. Ouais, voilà. Et à chaque fois que le clipping commençait, la Real elle switchait. Ouais. Ça sentait la consigne à plein nez de la part de la FIA de dire, vous nous mettez pas en on-board les moments de clipping. Et je me suis dit, bah voilà, ça veut juste, vous savez que du coup c'est dégueu.
Ah bon? La FIA aurait demandé, non.
La Real était pas mal hier, mais... Hamza.
Je peux pas.
La Real de dimanche, c'était pas mal.
Dissimulation d'informations.
Non, mais je veux pas rentrer dans le compte. Mais chaque fois que t'arrives sur le clipping, ça change d'angle de cam. Faut pas me dire que l'arrivée du T16 en qualification, c'est le truc le plus magnifique au soir en soi, tu vois. Donc voilà, je voulais faire un aparté là-dessus parce que ça m'a marqué.
Okay. C'est important, tu as raison. Faisons une pause, les gars, sur le sportif, sur les enjeux.
On va parler à Aston Martin.
De pression, sur tout ce qui se passe. C'est plutôt le championnat du monde. Parlons des choses qui nous ont fait sourire ce week-end. C'est tout de suite l'instant paddock.
Voilà un bruit.
Ça, c'est la F1 qu'on aime. Merci, Brian. Ça, c'est la F1 qu'on aime, ça.
C'est un son ramené par Jean-Luc Roy, je crois.
C'est ça. Et on salue Jean-Luc et on salue, bien sûr, nos amis de Paddock RMC, l'autre podcast que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur RMC Sport. Les gars, l'instant paddock. Alors, en fait, à chaque débrief, on fera un petit point comme ça sur du hors-piste. Alors là, ça concerne de la piste parce que, c'est un peu du hors-piste. Hein. C'est du hors-clou, on va dire, parce qu'on va parler d'Aston Martin.
Oui, c'est du hors-piste.
Et qu'on va parler de Fernando Alonso, qui conduit sans les mains pour deux raisons complètement différentes. L'idée dans cet instant paddock, c'est vous prendre une image, un cliché, pour vous expliquer un petit peu des choses un peu rigolotes autour de ce week-end. Vous le savez, Aston Martin est miné par des vibrations provoquées par le fameux moteur Honda, des vibrations si fortes qu'elles ont déjà fait tomber des rétroviseurs, décrocher des feux arrière et casser d'autres éléments aérodynamiques, des vibrations qui ont des conséquences aussi pour les pilotes. Là, on est en on-board avec Fernando Alonso, on est en ligne droite. Là, pour le moment, tout va bien. Regardez ses deux mains, elles sont solidement accrochées à ce volant, mais un petit peu plus tard, cliché suivant, mais vous allez voir, il est obligé de lâcher le volant. Donc là, on est quoi, à 320, on est peut-être juste avant le super clipping ou peut-être pendant, à 330, 340, et Fernando Alonso qui est obligé de lâcher le volant parce que justement, il est victime à cause de ces vibrations d'engourdissement. Vous allez voir sur le cliché d'après, même en virage, il est parfois obligé de conduire à une main. La main droite est posée sur le volant, on le voit pas très bien, mais la main gauche est obligée justement de retirer. Impressionnante ces images, presque choquante et presque inquiétante quand même.
Ouais, je me rends pas compte des enjeux financiers d'Aston Martin pour à tout prix mettre cette voiture en piste qui honnêtement est un danger public en fait.
En fait, les accords Concorde t'obligent à être présent sur chacun des week-ends de Grand Prix.
Ah bah ils peuvent être présents, mais en attendant, on voyait pas un mec de 45 piges potentiellement en fait se faire des séquelles. À vie, alors c'est pas moi qui le dis, hein,
c'est Adrian Newey.
C'est Adrian Newey qui dit que potentiellement ces vibrations en fait peuvent te donner des séquelles nerveuses. Enfin, je sais pas, mais c'est un peu ridicule quand même. Enfin, d'envoyer une voiture dangereuse. On gueule sur les gens qui envoyaient à l'époque des pilotes dangereux comme Nikita Mazepin. Pourquoi une voiture dangereuse ce serait toléré en fait, juste parce que il y a les accords Concorde, d'image de marque, etc. Non, à un moment donné, faut être malin. Essayons pas de répercuter la même connerie qu'on avait faite à Suzuka en 2014 en roulant quand même malgré un typhon parce qu'il y avait des obligations. Là, Aston Martin, je suis désolé, mais Fernando Alonso, si il lâche un volant et qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, il y a quelque chose qui vient taper la roue, un débris ou quoi, et que le volant part comme ça, c'est ciao, il y a pas de saison 2. Donc stop.
Saison 21. Ouais. Inquiet, amusé, c'est quoi ton sentiment quand tu as découvert ces images? Je me rappelle, c'est toi qui les as découvertes, justement, Hamza.
Tout sauf amusé.
Ah ouais, clairement.
Jean-Brice, en fait, c'est mise en danger de la vie d'un de tes employés. Mm-hmm. Point. Mm-hmm.
Puis pour un stagiaire, quoi, tu vois.
Non, pas vraiment. Ouais.
Non, mais peu importe. Enfin, même tu parlais 45 ans, même si c'est un jeune de 18 ans.
Je ne dénigre pas la vie des stagiaires. Mais juste que c'est quand même je sais pas, t'as conscience de qui t'as là-dedans, et si le gars il se met lui-même à enlever les mains du volant, peut-être qu'il y a un message.
Alonso, c'est le mec, il faut le sortir de la voiture plutôt que lui
Oui, c'est-à-dire que même lui prend trop de risques, donc
mais on rappelle qu'hier c'est lui qui abandonne, hein. C'est pas un bris mécanique qui fait que il abandonne, c'est qu'il y a tellement de
vibrations, c'était trop.
C'est alors est-il trop vieux, tu vois. Est-ce que c'est le problème?
Non, aussi. Il a peut-être raison.
En attendant, il a fait plus longtemps que lui.
Alors vous allez voir, Fernando Alonso, on l'a vu en ligne droite, en virage, il a levé les mains pour les raisons qu'on connaît, et il y a cette scène aussi également choquante. On est en ligne droite, en on-board avec justement l'Aston Martin. Il est à la lutte avec Sergio Pérez, et vous allez voir, cliché suivant.
Ça, c'est drôle.
Sergio Pérez passe, et qu'est-ce que fait Fernando Alonso? Quitte à retirer la main du volant, je vais lui faire coucou. Genre, je félicite le pilote mexicain. Ça, c'est du Fernando Alonso. C'est de la facétie Fernando Alonso.
C'est JP2 Engine, mais avec un peu plus de sagesse.
De bonhomie et de... Ouais, c'est ça.
Là, oui, parce que c'est Tractopel Engine quand même. Hein. C'est pas en termes de vitesse, mais en termes de vibration.
Bah, c'est vrai que l'autre scène choquante, c'est qu'une Cadillac vienne à passer cette Aston Martin quand même.
Ça, c'est ouais, pareil. Je vais avoir des circonstances parce que...
En effet, voilà pour cet instant paddock, les facéties de Fernando Alonso qui conduit sans les mains. Ça pourrait nous faire sourire, ça nous inquiète encore un petit peu plus, et bien évidemment dans cette saison. On reprend le fil de notre émission et de notre débrief, le troisième enseignement. On va parler du midfield, on va parler de la bataille du milieu entre Haas et Alpine. Alors déjà, constater la belle sensation Alpine du côté de Shanghai, ça on s'y attendait pas forcément. La phase de sprint avait éveillé un peu d'optimisme, les changements de réglage avant les qualifs ont permis à Alpine de créer la sensation. Gasly 7e de Q3, Colapinto qui était justement aux portes de cette dernière phase. Principal signe du regain de forme justement d'Alpine, c'est la perf du pilote argentin qui marque son premier point dans cette saison avec la P10. Gasly top 6, première double entrée dans les points depuis Brésil 2024. Ce n'est pas rien. Ça contraste aussi avec la nouvelle tuile pour l'ancien pilote Alpine et désormais chez Haas, Esteban Ocon. On l'a quitté très frustré à Melbourne, battu par son coéquipier, fustigeant des réglages différents pour les deux voitures, battu en shootout sprint, en sprint et en qualification par Berman, fermé en interview presque abattu. L'erreur aussi également sur Colapinto qui détruit sa course. Il finit 14e quand Berman, pris eh bien dans la sortie de Isaac Hadjar en début de course, est sauvé par la safety car, fait lui top 5. Ocon qui a eu l'honneur de quelques menaces de mort au passage des super supporters de Franco Colapinto. Bref, un week-end à oublier encore une fois pour le français. Et puis, quand on dézoome, il y a aussi cette situation assez alpine. Sont-ils devenus les nouveaux rois du midfield? Ils ont fait mieux, en tout cas, que Red Bull, dont on va parler tout à l'heure. Surtout, eh bien, on a l'impression qu'on a des performances très très proches, en tout cas du côté de la Chine, entre ces deux écuries. La bataille du milieu, elle vous a régalé. Entre Haas et Alpine, ça a été l'autre détonateur de cette course, en plus de Ferrari.
Ouais, elle a été un petit peu faussé par les écarts stratégiques, parce que on a deux là-dedans qui partent en hard et qui se retrouvent justement à ne pas s'arrêter pour essayer d'aller plus loin, et que ça a ruiné leur course, hein, d'ailleurs, puisque la safety car est arrivée au tour 10 et quand tu pars en hard, c'était impossible de finir en médium. Mais non, c'est encore une fois c'est l'exemple d'avoir quatre voitures dont de deux marques différentes seulement, avec la différence de déploiement qui donne justement un petit avantage à la malice sur certains endroits, et ça effectivement c'était effectivement régal. Moi j'aurais aimé les voir sur quand même les mêmes types de pneus au même moment, ça aurait été un peu mieux pour ça. Mais non, c'était très bien, et très bien de voir Alpine en haut. Je pense que le changement de réglementation a donné un petit peu d'air frais à Pierre Gasly, dans le fait de dire on a un moteur Mercedes, on ne sait pas ce qu'aurait donné le Renault, mais bon, enfin dans l'esprit, en fait, je peux très bien comprendre que ça donne un petit peu d'envie en plus, de souffle en plus. On avait un peu senti l'année dernière que il y avait un peu désabusé Pierre Gasly dans la manière dont il apparaissait aux caméras. Là, on le sent quand même vraiment impliqué dans ce projet-là. Et à noter que Alpine, dans la manière de gérer la batterie, j'ai l'impression que c'est les meilleurs du midfield. C'est eux que je vois le plus tenter, c'est eux que je vois le plus avoir d'armes, en fait, dans le midfield. Certainement aussi parce que c'est les seuls dans le midfield à avoir un moteur Mercedes, puisque Williams est loin. Donc non, c'est intéressant, ça va être beau à suivre.
Attention, Pierre Gasly s'est beaucoup plaint du super clipping sur ce week-end, en expliquant justement qu'il avait l'impression que lorsque le moteur passait en mode super clipping, il avait moins de vitesse que ses concurrents, et notamment il évoquait les performances du moteur Ferrari, du moteur.
Moi, c'est moins le cas dimanche, j'ai l'impression, non, quand même.
Ils ont peut-être trouvé des solutions. T'as raison, sur l'optimisation.
Il était plus frustré samedi que dimanche, mais dans aucun cas. Enfin, 7e en sprint, 6e en course, bien aidé par le fait que trois voitures devant lui ne finissent pas ou ne partent pas.
Ou ne partent pas.
Mais quand même, ça aurait fait une P10 avec l'ensemble de la grille, ça aurait pas été déconnant.
On dit du bien d'Alpine ou on dit du bien de Berman aujourd'hui, Hamza?
Les deux.
Non, mais c'est une blague.
Les deux. Non, Alpine, j'ai bien envie de voir du coup l'évolution cette saison, encore une fois facilité par ce moteur Mercedes. J'en attendais beaucoup en Australie, j'ai été déçu. J'en attendais beaucoup en Chine, je l'ai été beaucoup moins déçu. Et ce qui est rassurant aussi, c'est que tu retrouves un Franco Colapinto qui, je crois, marque ses premiers points chez Alpine.
Ouais.
Et ça peut
un
aussi...
point, il met un
point. Ouais. Ouais.
Et ça peut lui donner de la confiance, et justement de savoir que tu peux être en capacité de te battre avec tes deux voitures pour accéder à la Q3. Colapinto n'était pas loin de la Q3. Gasly, lui, est entré en Q3. Franchement, c'est plutôt positif pour la saison de te dire que tu retrouves deux pilotes avec un peu plus de confiance. Je vais pas reprendre tout ce que tu disais sur Gasly assez justement, mais forcément quand tu te bats pour une Q3, pour une 6e place, c'est pas la même chose que te battre pour une 17e place.
Donc et j'ai découvert un Colapinto intelligent dans la défense aussi dans cette bagarre à 4. Je l'ai trouvé rude, mais dans le bon sens du terme. Et ça, c'est quand même une belle arme si jamais il arrive à hisser sa monoplace à une position qu'il doit défendre, parce que jusque-là, il n'avait pas grand-chose à défendre, on va pas se mentir. Ça peut se révéler être une arme pour Alpine qui en manquait beaucoup jusque-là.
Non, mais surtout, ouais, il défendait en fait sur toute la largeur de la piste. C'était clairement le camion, le bouchon, sans jamais dépasser la limite. Et en fait, c'était une défense qui, je te rejoins pas forcément, la défense, elle était utile. Elle était utile pour sa course, et elle était utile aussi pour la course de son coéquipier.
Oui.
Donc de savoir aussi jusqu'au moment de cet accrochage avec Esteban Ocon. Mais encore une fois, tu sors de ce week-end avec beaucoup plus d'éléments positifs pour la suite de ta saison qu'après l'Australie où j'étais vraiment inquiet.
Ouais, clairement.
Et une autre tonalité intéressante, c'est que c'était presque frustré et déçu les deux pilotes alpines à l'arrivée de cette course. Je vous ai juste de verbatim. Pierre Gasly qui nous dit « J'aurais préféré avoir cette cinquième place, je pense qu'on l'avait. Après la safety car, je n'avais pas d'énergie. Il y a Berman qui me dépasse dès la relance en mettant le clignotant. Mais c'est un bon début cette P6. » Et puis même Franco Colapinto qui nous dit « C'était une course amusante avec Ocon. C'est dommage que ça se finisse comme ça. J'ai perdu 2 points dans ce contact. Ce n'est pas ce que je voulais. Ça aurait pu être mieux. Et je pense avoir été malchanceux tout au long de la journée. » Voilà. Donc de la déception.
C'est vrai,
en tout cas,
avec la strat. Avec la strat, c'est vrai aussi.
Ouais, tout à fait. Il aurait peut-être pu justement finir devant les As. Juste un dernier mot, les gars, rapide sur Esteban Ocon. Il y a une petite pointe d'inquiétude dans ce début d'année 2026. Ça va être longue cette année, mais on se rappelle des propos d'Hayao Komatsu pendant l'hiver. On se rappelle d'une deuxième partie de saison un peu plus compliquée pour notre pilote français. On voit que Berman arrive à performer. On voit qu'Esteban a parfois des petits soucis ou est un petit peu en retrait. Et hier, il y a ce crash aussi également. Brian nous remontrait les images avec Franco Colapinto. Esteban Ocon nous dit à l'arrivée, toujours chez Canal, le diffuseur, l'incident n'est pas trop le problème, c'est plutôt la safety car qui vient au mauvais moment. Ça fait 2 courses qu'on n'a pas de réussite, ça vient au mauvais moment et on perd du temps sur les autres. Alors c'est vrai qu'il manque de réussite, Esteban Ocon, sur ce début de saison, mais moi je l'ai senti quand même tracassé, je l'ai senti fermé, notamment dans ses passages au carré après la course sprint, après le Grand Prix hier. On va pas tirer de conclusion tout de suite, mais cette saison 2026, elle revêt un enjeu important quand même.
Ouais, là où je te rejoins, je trouve qu'il a l'air nerveux. Après, bon, on va pas l'analyser psychologiquement. Il est comme il est. Je pense qu'il était frustré, surtout après une course comme celle d'hier. Mais effectivement, quand tu te bats avec Sergio Pérez, quand tu te bats avec Daniel Ricciardo, quand tu te bats avec Pierre Gasly, bon, bah, faire jeu égal, c'est suffisant, c'est bien, mais quand tu viens avec quelqu'un qui était un rookie, quand toi t'as 6 ans d'expérience, que sur la première année il fait davantage sensation que toi, même si les résultats peuvent varier, et que là en début de deuxième saison il fait encore davantage sensation que toi, qui manque de faire un crash. Lui, il évite un crash au tout début de la course, et il l'évite genre de très très peu, hein. Et il termine 5e du Grand Prix quand toi tu viens justement dans une bataille faire une erreur. Quand t'as quasiment 10 ans d'expérience, un petit peu bête, oui, effectivement, le contraste se voit et j'ai peur que ça commence à agacer Komatsu.
Et Toyota,
parce que je pense qu'il a un meilleur salaire que Berman, que je pense qu'il y a des gens qui poussent au portillon derrière, et que voilà, il a eu sa chance en F1 et qu'on peut penser que c'est bon, il devrait avoir atteint la maturité. Donc oui, je suis un peu inquiet là-dessus, parce que il y a cette nervosité en piste. On sent que Berman, lui, il est complètement libéré par rapport à ça, et ça joue des tours à Esteban, je trouve.
J'aurais tendance à être un peu moins inquiet dans le sens où la saison est longue.
Oui, bien sûr.
Et je ne ferai pas de conclusion avant la mi-saison.
Mais c'est la continuité de la fin de saison.
C'est l'enjeu de 2026. En fait, c'est de sentir une conclusion. C'est plus qu'est-ce qui attend Esteban Ocon en 2026 par rapport à la saison.
Hamilton, on voit un vrai changement fin de saison, début de saison. Là, j'ai pas l'impression de voir un vrai changement.
Et puis, il y a un élément aussi. On a tendance, et je peux l'entendre, à mettre le focus sur Esteban Ocon. Oli Berman.
Et incroyable.
Lui aussi. Exceptionnel. C'est un super talent. Et peut-être que dans 5 ans, ou peut-être dans moins, il sera au volant d'une Ferrari, il sera champion du monde. Parce que moi, ce garçon, sincèrement, je lui trouve un sacré potentiel.
Il a plus de points que Red Bull. Hein. Juste. Hein. 17 à 13.
Il faut dire qu'on peut en parler, mais c'est assez catastrophique.
Il a plus de points que Red Bull.
Là où tu as raison, Hamza, tu sais... Isaac nous en avait parlé de Berman en disant qu'il était très très rapide, habitué au coup d'éclat, etc.
Et propre,
mais là c'est la régularité moi qui m'impressionne chez Berman. Ouais.
Non mais aujourd'hui il est 5e au championnat du monde, c'est le meilleur des autres. À l'heure actuelle, alors évidemment on est deux courses, il y a quand même une sprint, donc on va dire 3 et 2 courses et demie, mais t'as les deux Mercedes, les deux Ferrari, c'est Oli Berman qui a 17 points. Ça sort pas de nulle part, c'est ça que je veux dire. C'est que évidemment Red Bull a eu des problèmes, McLaren a eu des problèmes, mais en attendant c'est lui qui est là.
Et le tout avec un départ catastrophique en Australie.
Oui.
Où il a perdu mal de positions avant de remonter. Donc
c'est très fort, je trouve.
Exactement. On verra justement cette bataille du midfield, ce qu'elle nous attend, et puis voir aussi s'il n'y a pas une des deux écuries qui peut casser le plafond de verre et aller s'inviter bien sûr dans la lutte parmi les les meilleurs. Dernier enseignement, prenez un Doliprane parce que ça fait mal à la tête, la gueule de bois pour McLaren et Red Bull. Alors on commence tout de suite avec McLaren, ça va aller vite, vous allez voir. Norris et Piastri n'ont tout simplement pas pris le départ, un problème électrique. Voilà pourquoi les deux McLaren ne sont pas partis à Shanghai. Andrea Stella nous a expliqué après l'arrivée qu'il s'agissait de deux problèmes électriques distincts et donc d'une coïncidence extrêmement malheureuse. Deux voitures qui abandonnent avant le départ, il existe un précédent, c'était déjà McLaren et c'était il y a 20 ans. Red Bull nulle part tout le week-end, catastrophe pour Verstappen qui inscrit aucun point dans ce premier week-end sprint de la saison. Deux départs cataclysmiques, 9e en sprint, abandon en course, problème de refroidissement de l'ERS, pas d'adhérence, pas de rythme, bloqué dans le milieu du peloton. Verstappen, écoutez bien, affiché un handicap de 2 secondes par tour par rapport à Russell en course sprint ce samedi. Et puis il faut noter par contre, dans tout ce marasme du côté de Red Bull, la consistance d'Isaac Hadjar. Moi vraiment je suis impressionné par ce que dégage Isaac Hadjar sur ce début de saison. On rappelle, il a terminé un dixième tout simplement de Max en qualif. Ses premiers points aussi après une belle remontée, après surtout une grosse frayeur en tout début de course. Les gars, c'est un menu au choix dans ce menu gueule de bois qui nous attend pour cette fin d'émission. McLaren, Red Bull, Isaac Hadjar pour les réjouissances. Je vous laisse prendre la take que vous voulez parce que là franchement il n'y a que du négatif ou presque.
Aucune information là-dessus, mais c'est quand même bizarre que ce soit les deux équipes qui ont lutté pour le titre qui se retrouvent à avoir plus de problèmes de fiabilité que les autres. Enfin, il y a Aston aussi, hein. Mais en début de saison, là, on a un moteur qui a lâché chez Isaac. On n'arrive pas à comprendre comment fonctionnent les départs chez Max Verstappen. On a fait deux setups différents. Les deux départs étaient cataclysmiques. On a une libération d'énergie beaucoup trop violente pour Oscar Piastri en Australie qui l'envoie dans le mur. Là, on a les deux voitures qui partent pas. Alors qu'il y a de la perf quand même. Bon, je pense que je n'ai pas d'informations, mais ça a l'air d'être pas finalement très très près chez Red Bull et McLaren, qui ont pourtant l'air d'avoir une plateforme qui est assez performante. Quand tout se passe bien, c'est pas si loin que ça. Isaac Hadjar fait P3 en Australie d'une manière où c'était pas ridicule, mais le tour de qualification où il est 2 secondes derrière il est 1 seconde derrière, je pense qu'encore une fois on cherche à comprendre les voitures de ce côté-là. Ça me fait, je pense que les voitures vont se retrouver effectivement 3e et 4e assez facilement dans la hiérarchie, mais qu'il y a encore besoin de compréhension de certaines choses. Et par rapport à ce que tu dis vis-à-vis d'Isaac, s'il y avait un moment pour rejoindre Red Bull, c'était 2026, on le savait, c'est le moment où Max Verstappen aurait moins d'appui entre guillemets, moins de le board Max Verstappenesque est parti, que ce soit Marco ou Horner, et c'est une voiture dont il n'a pas encore toutes les clés. Donc pour faire sensation à moins de 3 dixièmes de Max Verstappen, c'était le moment de le faire. Il le fait. Statistiquement, il éclipse Tsunoda, Albon, Perez, mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur. Ça veut dire que c'est davantage ouvert, on va dire. Et c'est tout bénef pour lui.
Pour l'instant.
Pour l'instant, mais c'est tout bénef pour lui à l'heure actuelle.
Parce que rappelez-vous, les débuts de saison où les deuxièmes pilotes chez Red Bull étaient assez proches de Max Verstappen, Sergio Perez qui jouait pour des victoires à l'époque. Et plus la saison avançait, plus les évolutions de chez Red Bull arrivaient, et plus Max Verstappen était en capacité de mieux l'exploiter, la voiture, qu'à l'époque, si tu prends l'exemple de Perez, Sergio Perez.
Il n'y avait pas le même esprit non plus, Verstappen. Là, Verstappen, il déteste absolument tout là-dedans. J'ai l'impression quand même qu'il a un peu moins cette rage qu'il pouvait avoir là sur les 5 dernières années. Je vois sourire à la cam alors qu'il fait 14e ou qu'il abandonne. C'est pas pareil quand même. Hein. Et là, il est au Nordschleife ce week-end. Tu sens que c'est
le moment le plus important de sa saison.
Ah, je pense. Pour lui, en tout cas.
Il est 24 du Mans, il va peut-être les faire. Je le vois bien lâcher son siège une pour une course, sincèrement.
Comme Alonso. Hein.
Alonso, ouais. C'est Button 2016. Qu'il avait remplacé à Monaco en plus.
Le fameux
GP. Le seul GP où tu pouvais espérer quelque chose. Il dit, vas-y, prends ma place, moi je vais m'amuser.
Enfin, il est parti P17. Hein, aux États-Unis. On va pas se mentir.
Non, juste pour revenir rapidement sur McLaren, moi il y a quand même un point qui va être important de surveiller les prochaines semaines. C'est qu'on parle de clients de Mercedes. Je suis pas certain que Mercedes donne toutes les informations. Peut-être qu'il y a de la rétention d'informations.
Ah, clairement. Ah, ils donnent le moteur, pas le logiciel.
Mais toutes les écuries qui sont fournies par Mercedes, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a un vrai
toujours des problèmes.
Williams s'en plaint. Alpine, on le disait avec le super clipping, s'en est plein ce week-end. La McLaren, quand même, deux problèmes électriques distincts au même moment. Enfin, je suis pas dans la théorie du complot.
Ça parle de sabotage.
Je peux vite basculer.
Pas du sabotage. Non, mais effectivement, si demain je te donne je sais pas comment faire fonctionner ta tablette sans le mode d'emploi.
Ah oui, c'est compliqué.
Oui, je pense qu'ils offrent des, enfin ils offrent, c'est payé déjà, mais ils fournissent, mais ils oublient le mode d'emploi. Enfin, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Donc et c'est tellement compliqué à comprendre que être constructeur donne un avantage considérable. Au final, c'est les deux constructeurs puissants qui sont devant, et Audi qui tire son épingle du jeu vis-à-vis d'un Cadillac parce que eux aussi ont construit leur moteur. Mmh. Donc ça m'étonne pas.
Et pour Red Bull, les gars, on va leur laisser aussi un petit peu de temps. C'est ce que disait hier Laurent Mekies, le fait de construire désormais ce moteur. On a été impressionné par le travail qui a été fait, mais peut-être que dans la compréhension, dans la fiabilité, cette saison va servir aussi de s'adapter et de comprendre.
Il y a des trucs à comprendre, parce que pour que les Racing Bull soient devant parfois,
ouais, c'est vrai.
C'est le même moteur, c'est certainement le même logiciel. C'est qu'il y a un truc qu'il y a aussi encore à comprendre chez Red Bull, et peut-être aussi au niveau du châssis. Hein. Faut qu'on arrête de se dire que le châssis, c'est le point fort de Red Bull. Cette voiture n'a pas été conçue par Adrian Newey, n'a pas été conçue par tous ces mecs qui ont fait les heures glorieuses de Red Bull en termes de châssis. Donc là, va falloir compter sur les deux, et il y a peut-être effectivement un peu de moins bien chez Red Bull.
Objectif de la troisième course, voir un départ d'Oscar Piastri.
Ah oui, oui, pas un tour.
Le gars a quand même la statistique folle d'avoir 3 points sans avoir fait un Grand Prix. Puisqu'il a fait que la sprint, mais il a 3 points.
Ah, tu sais que la dernière fois que qu'un pilote McLaren n'a pas débuté 2 courses de suite, évidemment on compte pas la sprint, on parle de 2 grands prix, 1969.
Oh,
Bruce McLaren.
Le proprio himself.
Ça va.
Ouais,
il ne pouvait pas gueuler.
C'était Bruce.
Il ne pouvait pas gueuler, Bruce. Laurent Mekies qui nous a dit, excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais Laurent Mekies qui nous a dit qu'au Japon, ça devrait aller beaucoup mieux. Et pour revenir à ce que tu disais sur le châssis, c'est tout à fait vrai. Regardez, il dit, globalement, notre package a montré d'importantes lacunes en termes de perfo. Nous avons énormément appris au cours des dernières semaines. Je m'attends à ce que nous soyons plus compétitifs au Japon. Pierre Vacher l'avait dit en essai d'hiver, il avait dit, on est impressionné, épaté par le travail qui a été fait sur le moteur, mais nous, en termes de châssis, on est moins bien. Moi, je pensais vraiment à de l'intox, c'est-à-dire le dessinateur de la voiture qui arrive au mois de février et qui te dit non, mais mon châssis est pas terrible.
Je fais de la merde.
Je pensais vraiment que c'est de l'intox, mais vraisemblablement, quand tu vois les difficultés sur la tenue de cette auto, le moment où Isaac la perd, en tout début de course, là, il emmène Berman avec lui, c'est quand même des images auxquelles on n'est pas vraiment habitué.
Visiblement, c'est quand tu passes soit la 3, soit la 4, où t'as un espèce de bond de puissance. Qui effectivement, quand t'es dans une courbe comme ça, ça doit être un peu surprenant quand même l'histoire. J'ai regardé pour Red Bull, ils sont 5e force sur le secteur 1, secteur 2, 2e force sur le secteur 3. Ce qui prouve quand même que la voiture est très irrégulière dans ses capacités. Et le secteur 3, c'est davantage un secteur de ligne droite quand même que et d'épingle, enfin virage lent ligne droite. Ce qui veut dire qu'à mon avis, dans les longues courbes du 1 et du 2. Elle doit vraiment souffrir, la Red Bull, parce que je pense que la récupération d'énergie, elle l'instabilise. Tu vois Verstappen dans les 2S, là, c'est, il est sur de la glace, le pauvre.
Exactement. Pour l'instant, paddock, les gars, je voulais vous proposer de cette semaine, je voulais qu'on parle de la petite image, du petit instant, le petit échange entre Isaac Hadjar et Laurent Dupin, mais on n'a pas les droits. Donc malheureusement, on n'a pas pu l'utiliser pour l'instant, paddock. Mais
ça quel échange bien.
Tu l'as pas vu, ça? Tu as pas vu? Ah oui,
ouais, c'est en train de dire que c'est pas un échange.
Non, mais voilà, quand Isaac. Non, je te raconte pas la scène. Allez voir sur les réseaux. Parce que, tu l'as vu en replay, ça? Parce que je crois que c'était dans le direct et je suis pas sûr que c'était dans le replay après.
Je sais pas. Moi, je regarde sur F1 TV en ce moment.
Ah, bref, je te montrerai la petite image, mais c'est Isaac qui pète un peu un plomb sur l'interview. Parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas écouté, mais on a du Isaac. Quand on connaît un peu Isaac, on sent qu'il a son prime, là, qu'il est chaud. Il est chaud, il a dans des coudres en tout cas. Allez les amis, avant nous de refermer cette émission, la petite phase classement pilote et constructeur après bien ce deuxième week-end de la saison. Après aussi également le premier week-end sprint avec un George Russell qui mène 4 points d'avance sur Andrea Kimi Antonelli. Et attention aux Ferrari qui suivent derrière et qui sont séparés seulement d'un seul point. Et puis tu le disais tout à l'heure, Oli Berman, il est quand même 5e du championnat du monde de Formule 1. On verra si ça va continuer.
Norris est derrière.
Et Norris est juste derrière, 2 points derrière, mais avec un peu moins de kilomètres également parcourus. Et puis on regarde les classements aussi également des constructeurs forcément trustés. Vous l'avez compris par Mercedes, mais l'écart reste quand même serré avec Ferrari. Derrière, le trou est fait et est abyssal. Bref, on pourra avoir dans le reste du monde, on pourra avoir une bataille intéressante. Et puis l'autre bataille qui va nous tenir en haleine, c'est le Cadillac Aston Martin, en espérant que ça s'améliore pour Aston.
Red Bull, Racing Bull, égalité. Ils voulaient passer de l'écurie mère à l'écurie sœur, c'est des choses faites.
Attention, ouais. Attention à ce que la petite sœur ne vienne pas créer trop de problèmes à la grande sœur. Voilà les amis, merci à tous les deux en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir été aussi brillants, aussi prolixes et toujours aussi bons dans les avis forts. Vous nous dites ce que vous avez pensé justement de cette émission en commentaire. On attend bien sûr vos avis et on se retrouvera quand ?
Dans deux semaines.
Le 30, t'as raison, oui, c'est vrai.
Le Japon d'abord.
Le 30, juste après le Jean Apple, le Japon. Le lendemain du Grand Prix du Japon, on sera ici même. Et mon petit doigt vient de me dire que des pilotes pourraient être là justement en plateau. Merci les gars, bonne journée, bonne semaine. Ciao, ciao, vive l'iPhone.